Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Très bonne journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC. On tente de vous rafraîchir.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et on a passé la nuit à vos côtés à RMC, dans les rues de Paris. Certains ont choisi, vous allez voir, de ne pas dormir, tout simplement, pour profiter de rares moments avec des températures supportables. C'est dans ce contexte d'alerte rouge canicule que le gouvernement va dévoiler son projet de loi visant à autoriser les locations de passoires thermiques à condition que les propriétaires s'engagent à faire des travaux. Et nous serons à la Coupe du Monde aussi dans ce journal où on attend la dernière grande star du mondial, Neymar, la nuit prochaine avec le Brésil.
Les nuits sont de plus en plus chaudes.
Oui, et même la nuit, en fait, on a des températures qui sont au-dessus des normales de saison. 31 degrés à Biscarrosse cette nuit, 29 à La Rochelle et à Poitiers. On n'est pas descendu en dessous des 25 degrés à Paris. Cassandre Brault pour RMC. Vous avez donc sillonné les rues de la capitale toute la nuit. Vous avez rencontré des dizaines de Parisiens qui erraient tout simplement dans les rues pour profiter des températures, on va dire, acceptables.
Oui, alors là actuellement je me retrouve au parc des Buttes-Chaumont. Ici l'herbe est encore humide. Plusieurs promeneurs viennent chercher de la fraîcheur. Ce matin, s'allonger sur la pelouse, lire, se reposer ou gratter quelques minutes de sommeil supplémentaire au frais. Ils portent déjà tous chapeau, casquette et lunettes de soleil. Quelques heures plus tôt, j'ai rencontré Joseph. Il a 19 ans, il a passé la nuit ici dans ce parc des Buttes-Chaumont, ouvert spécialement pendant la canicule. Cet étudiant est arrivé vers 23h hier soir.
Il faisait plutôt bon, toujours un peu trop chaud à mon goût pour une nuit. On s'est pas mal baladé pour trouver un petit coin où on pouvait se poser. Voilà. Et puis ensuite, moi j'ai bien dormi aussi un peu. On est arrivé pile au moment où l'herbe était mouillée. Ça permet de se rafraîchir un petit peu parce qu'il faisait encore chaud. Et ouais, moi je me suis posé et puis assez vite, en allongeant, en fermant l'œil, j'ai dormi, ouais.
Pas seul, ils sont plusieurs à avoir dormi dans le parc, sur l'herbe, sous les arbres, à l'abri de la chaleur. Gabin aussi s'est réfugié ici pour la nuit. Question de survie, impossible pour cet étudiant de dormir chez lui, sans ventilateur ni climatisation. Pour Anna et ses amis, ces nuits à la Belle Étoile pourraient devenir une habitude le temps de la canicule. Après être venus hier, ils se sont organisés aujourd'hui, cette nuit, pour amener des draps et être bien installés. Certains dormeurs ne sont pas encore réveillés, d'autres sont déjà partis ce matin pour éviter le soleil. Les températures commencent à remonter, il fait déjà 26 degrés ici à Paris.
Et on a dépassé les 43, 44 degrés hier, donc dans l'ouest du pays, comme dans un hammam en fait. On a vécu la journée la plus chaude depuis l'existence des relevés. Ce record sera certainement encore battu aujourd'hui, nous dit Géraldine. Et en plus de l'alerte canicule, il y a l'alerte aux feux de forêt. On est à un niveau élevé dans 35 départements. Un tiers du pays, c'est énorme pour une fin de mois de juin. Énormément de départs de feu depuis hier, les deux plus importants dans le Maine-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne. Une centaine d'hectares ont brûlé à ces dernières heures. Marion Gauthier, vous êtes précisément à Boussès dans le feu là-haut de Lot-et-Garonne. Le feu qui est maîtrisé ce matin.
Oui, la commune respire un peu mieux, même si l'air pique encore la gorge et les yeux. Une des routes qui mènent à la commune est noircie, les bois autour partiellement brûlés. Les deux foyers se sont déclarés en milieu d'après-midi. Hier, les feux ont parcouru 88 et 6 hectares. La maison de Ludovic, toute proche, se retrouve ce matin au milieu des voitures et camions de pompiers. Le père de famille a fait évacuer ses deux filles. Il est encore ébranlé par la nuit qu'il dit apocalyptique.
Le feu, il était quand même là, à 200 mètres de la maison. Donc, et puis ça va vite, quoi. On parle de feu, quoi. Ouais, c'est inquiétant quand même. Ça fait peur pour les suites parce que bon, on est juste à côté des bois et avec tout ce qui se passe. J'ai même la famille qui m'ont dit, il faudrait que tu penses à déménager. Et ça commence déjà, oui. C'est effectivement ça. Ça commence très, 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 très tôt.
Mais tout est déjà très sec chez nous, insiste-t-il, et c'est bien l'inquiétude des pompiers. Le feu est fixé, mais des fumerolles s'élèvent encore par endroits. Avec les fortes chaleurs, l'incendie pourrait redémarrer. Les équipes restent mobilisées au sol aujourd'hui et continuent de lancer de l'eau sur les cendres.
Marion Gauthier, en direct du Lot-et-Garonne ce matin pour RMC. Alors, il y a le réseau électrique qui lâche carrément dans le Finistère. Grosse coupure d'électricité depuis hier. 68 000 foyers sans courant. C'est un gros transformateur en fait qui a explosé près de Quimper avec panache de fumée. Ce sera pas réglé avant la fin de journée, dit déjà la préfecture. Des EHPAD n'ont pas de courant ce matin. C'était pareil à Beauvais, l'hôpital qui a été paralysé pendant 24 heures, sans doute à cause de la chaleur. Plus de 8000 établissements scolaires fermés ou qui revoient leurs horaires. Encore des trains et des métros supprimés ce matin en région parisienne. À Paris, tiens, le Louvre et la Tour Eiffel fermeront plus tôt, là, toute la fin de semaine. Adaptation aussi au Mont-Saint-Michel. C'est donc dans ce contexte que la climatisation devient un sujet politique et aussi que le gouvernement va dévoiler son projet de loi visant à assouplir les fameux DPE, diagnostics de performance énergétique. pour permettre aux locataires, eh bien, de louer les passoires thermiques s'ils s'engagent à faire des travaux de rénovation dans un délai allant de 3 à 5 ans. Le gouvernement dit que c'est du gagnant-gagnant, mais les oppositions sont pas toutes de cet avis, Sonia Gobry.
Le RN salue la mesure et serait même allé plus loin en supprimant toutes les interdictions de location en cas de mauvais DPE. Et ce n'est pas la canicule qui fera changer d'avis le député Thomas Ménager.
Mieux avoir quelqu'un qui est dans une passoire, une bouilloire thermique éventuellement, plutôt qu'une personne qui est à la rue, qui n'arrive pas à se loger.
L'écologiste Cyril Châtelain n'est pas de cet avis.
Il faut des logements qui soient habitables toute l'année. Une passoire énergétique sur deux est mise en location par des ménages qui font partie des ménages aisés. On a besoin de ces dates très fermes d'interdiction de mise à la location pour forcer les propriétaires qui ont les moyens d'investir dans le logement. Parce que là, finalement, en assouplissant, on leur dit « vous n'avez pas respecté la loi, écoutez, ce n'est pas bien grave ».
L'assouplissement des règles pour louer des logements classés F ou G, ce n'est pas l'idéal non plus pour la députée UDI et ex-ministre du Logement, Valérie Létard.
Je suis d'accord avec la gauche sur le fait qu'on doit être exigeant sur l'accompagnement des changements climatiques. Après, il faut faire œuvre de pragmatisme.
C'est aussi l'argument du gouvernement qui martèle que cet assouplissement permettrait de maintenir ou remettre sur le marché locatif environ 700 000 logements d'ici à 2028.
Alors ce matin, il y a aussi ce rapport sénatorial qu'on vous révèle sur RMC, rapport sur les mouvances masculinistes. Après 7 mois de travaux, il appelle à un réveil des consciences pour prendre la mesure de ces mouvements misogynes qui, vous le savez, prônent la haine des femmes en expliquant eh bien, qu'ils représentent, je cite, un risque réel pour la démocratie et la cohésion sociale. C'est ce que disait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC, vous allez l'entendre, la sénatrice socialiste et rapporteure de cette mission, Laurence Rossignol.
C'est violent parce que ça produit des injonctions aux femmes et il y a des mères ou des sœurs ou des filles qui se retrouvent subitement avec un gamin qui leur dit non, moi je débarrasse pas la table, c'est pas une tâche d'homme, c'est une tâche de fille, demande à ma sœur. C'est violent parce que ça mène parfois jusqu'au terrorisme. Ce que j'observe, c'est côté DGSI et antiterrorisme, il y a une prise en compte sérieuse du problème. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation de notre société. Il faut aider les familles à repérer les signaux faibles, ce qu'on avait appris justement avec la radicalisation djihadiste. Il faut savoir à qui s'adresser quand on les repère. Donc, on demande un plan interministériel et il faut que tous les ministères se mettent là-dedans.
Des nouvelles des Bleus à la Coupe du Monde.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus qui ont observé une minute de silence à l'entraînement en hommage à la mère de Didier Deschamps qui est décédée. Le sélectionneur a quitté les États-Unis dans la soirée pour assister aux obsèques. Elle ne sera pas présente pour France-Norvège vendredi. Vous n'êtes pas seul, écrit le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. C'est déjà aujourd'hui le début de la troisième et dernière journée de phase de poule. On aura 6 matchs ce soir et la nuit prochaine. Vous allez tous les vivre sur RMC, vous le savez. Notamment le Brésil contre l'Écosse. Ce sera à minuit avec sûrement le retour de Neymar qui n'a pas joué une seule minute jusque-là. Et l'attente est grande, nous dit Jérôme Sillon pour RMC.
Dans la touffeur de Miami, sous 35 degrés et par 80% de taux d'humidité, ils sont des centaines chaque jour à se retrouver à la Casa Ronaldo dans le quartier de Wynwood Walls. Maillot vert et jaune sur le dos, Carlos clame son amour pour Neymar.
On l'aime encore, certains non, mais dans l'ensemble, on l'aime encore. Surtout moi, parce que je suis supporter de Santos. Tout le monde est excité à l'idée de le voir jouer.
2 ans et demi que Neymar n'a pas évolué avec le Brésil, entre blessures et méformes. Klauber est supporter de Fortaleza, mais il sait que l'attaquant de Santos est un joueur différent.
Neymar est génial. Les autres joueurs sont excellents, mais lui, c'est un génie. Il est né comme ça. C'est un don de Dieu.
La convocation du meilleur buteur de l'histoire de la Seleção avec 79 réalisations avait créé des polémiques sans fin au Brésil. Mais pour Marcos, muscle saillant sous son débardeur Ori Verde, il n'y a pas débat.
Le Brésil ne pouvait être champion du monde que si Neymar était sélectionné. Il est du niveau de Ronaldo ou Ronaldinho, même à 50% de ses moyens physiques ou sur une jambe, c'est le meilleur joueur de l'équipe.
Plus que pour le match de l'Écosse, c'est à partir des 16e de finale que Neymar devrait monter en puissance, avec pour ultime but le 6e titre de champion du monde du Brésil.
Bon, alors le tout dernier résultat de la nuit, c'est la victoire de la Colombie 1-0 contre la République démocratique du Congo.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à
Les
tous.
Catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher à l'économie française.
En 2025, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a coûté 1,7 milliard d'euros au secteur de l'assurance. C'est presque 15% de plus que la moyenne des 10 dernières années. C'est ce que nous dit le rapport que vient de publier la Caisse centrale de réassurance. Alors le régime des catastrophes naturelles, rappelons-le, c'est celui qui prend le relais. C'est l'État qui prend le relais, le public qui prend le relais via les assurances. Lorsqu'une catastrophe provoque des dégâts trop gros pour être couverts par une assurance classique, le péril le plus coûteux désormais, c'est la sécheresse qui a coûté 850 millions sur l'année. Sécheresse venant évidemment des canicules. Devant les inondations et les cyclones, presque 800 communes ont été touchées.
Et puis pour chacun de nous, ça va faire grimper les assurances ?
Oui, ça a déjà été le cas avec l'augmentation de la surprime catastrophe naturelle dans tous les contrats dommages en 2025 parce qu'il y a trop de catastrophes naturelles. 40 euros d'augmentation par an pour une prime à 500 euros par exemple. Là, il y en aura d'autres, certainement des réévaluations au cours des prochaines années. La Cour des comptes recommande même de ne plus prendre en compte des événements exceptionnels devenus banalisés comme la sécheresse. Ça veut dire hausse des primes qui pourrait augmenter chaque année deux fois plus vite que l'inflation, et notamment dans les régions les plus vulnérables. C'est le pourtour méditerranéen, c'est le sud-ouest, c'est l'outre-mer. Et pour certains, nous dit la Caisse centrale de réassurance, eh bien, il sera même très difficile de s'assurer demain. Il y a déjà 903 communes dans lesquelles c'est compliqué de s'assurer.
Et puis les chiffres du jour, ça continue à descendre ou pas ?
Ça continue, le gazole 1,89€ le litre pour la première fois sous les 1,90€ depuis le 5 mars. Le sans-plomb 95 continue à baisser mais deux fois moins vite que le gazole. Le pétrole 76,40€, on était à 84 en fin de semaine, le gaz est stable.
C'était Emmanuel Le Chypre, il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous. Dans un instant, Arnaud Demanche arrive pour nous faire rire à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Elle est au centre de l'actualité avec non seulement son projet de congé climatique, mais aussi la question de la clim qui désormais n'est plus un tabou, même si ça reste un clivage politique. Je l'interroge évidemment, Marine Tondelier, donc à 8h30 sur cette extrême canicule. Juste après, le choix de la rédaction. Une route départementale dans la Meurthe-et-Moselle qui fond avec ses températures. Température record, notre réseau routier souffre. On y reviendra donc juste après le face-à-face. Et puis il y aura aussi les toutes dernières infos sur la Coupe du Monde. Rendez-vous à 8h50. Restez bien avec nous, 8h12 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15, il est avec nous, Arnaud Demanche.
Bonjour Apolline. Bonjour les amis.
Salut.
Vous êtes bien là, hein? Vous êtes bien? Eh ben ne sortez pas, okay. Restez là. Je viens du dehors. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Apolline. C'est encore pire que d'habitude. Franchement, là, c'est comme à la colline du crack, sauf que tout le monde cherche de l'eau. C'est affreux, c'est la canicule.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime.
Il met de la biafine, mon vieux. Vous avez dit de ne pas vous exposer au soleil, les boomers. Alors, sachez que sur BFM, on est là pour vous. On continue de vous informer en envoyant sur le terrain Kevin Floury, le journaliste météo maison. Et la canicule, c'est aussi des conséquences sur l'économie. Kevin Floury, vous êtes à Nice, sur le parking d'une société qui fabrique des combinaisons de ski. Et les ventes s'écroulent. Voilà. Pourquoi, Kevin ?
À votre avis ?
Mais Kevin, ces combinaisons ont pourtant l'air d'excellente qualité. Mettez-en une pour nous montrer.
Mais je vais avoir super chaud.
Et oui, c'est le but d'une combinaison de ski, Kevin. Allez, vérifiez. C'est ça le travail de journaliste, hein. Alors, ça tient chaud ?
Oui, ça tient chaud.
Et les bonnets, Kevin ? Oui, vous avez essayé les bonnets et les moufles. En ce moment, ça se vend mal, les moufles. Pourquoi donc essayer les moufles ?
Mais, bon ben, elles tiennent chaud aussi.
Oui, ce sont de fabuleux articles de sport.
Mais le quel
sport,
sadisme, mais
le
quel
sport,
sadisme.
On le rappelle à ne surtout pas faire pendant la canicule. Sauf vous, Kevin, faites quelques pompes pour montrer aux gens pourquoi il ne faut pas faire de sport.
1, 2, 3, 4.
Kevin. Bon, on va laisser Kevin se reposer avant sa visite d'une usine de piments.
Hein ? Mais pourquoi des piments ?
Parce que les piments, ça se vend pas, Kevin. Pourquoi donc ? On va le savoir.
Arrêtez.
Le pauvre.
Allez, en ce moment, le journaliste de France Inter, Nicolas Demorand, se livre sur sa bipolarité, son internement de force à l'hôpital Sainte-Anne.
Oui, alors j'ai lu un article, je vous jure que c'est vrai, intitulé « Chicha, Kétamine et Dominique de Villepin, le glaçant récit du journaliste Nicolas Demorand à Sainte-Anne ». À un moment, faut arrêter avec les titres racoleurs, c'est le vrai titre.
Vous avez cliqué, bien sûr.
J'ai cliqué, alors bon, voilà, il raconte... mais c'est très bien de parler des problèmes mentaux, mais les titres putaclic, non, là on dirait du Bernard de la Villardière. Pompe à pénis, protoxyde d'azote et Édouard Balladur dans l'enfer d'une journée de Mathieu Béliard à RMC. Fentanyl, Womanizer et Alain Madelin, le quotidien sordide de la rédaction de La Tribune. Stéradan, Viagra, BDSM et Maurice Couve de Murville, la face cachée d'Alain Duhamel sur BFM TV. En tout cas, c'est encore une fois très bien de parler aux gens de troubles mentaux, ça aide. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'il était bipolaire. Hein, Apo, vous me disiez tout à l'heure, autant Léa Salamé, je suis sûr qu'elle a un pet au casque, autant Amandine Bégaud. Hein. Mais de Morant, ça se voyait pas.
Oh, mauvais mange, c'est terrible. Bernard Cazeneuve vient de mettre en ligne son site internet bc2027.fr.
Oui, je propose qu'on se connecte ensemble sur
oui,
son site.
Oui, allons-y.
Alors ça charge, ça, la photo se pixelise un peu, ça charge. Ça y est.
Bonjour. Vous êtes bien sur la page internet de Bernard Cazeneuve. Internet, c'est le futur. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Bientôt, tout se fera par internet. Alors pour accompagner une France qui bouge et qui rentre dans le 21e siècle, explorons ensemble les espaces télématiques de cette page internet. Vous avez cliqué sur menu. Dans le menu, mon programme, mon blog, mon forum, mes photos disponibles sur mon lien MySpace en haute résolution. Vous avez cliqué sur forum. Ensemble, échangeons sur le futur. Les États-Unis et le Japon règnent ensemble sur le marché de l'électronique et des circuits imprimés, mais nous pouvons développer des magnétoscopes français haut de gamme. Nous pouvons...
Bon, vous, je sais pas, moi, je vais peut-être pas voter pour lui. On est à combien de candidats, là?
Oh, bah, je sais plus, là.
Quand est-ce qu'ils sortent l'album Panini?
Ah, ouais, 2027,
avec les vignettes des 300 candidats. Dans les cours d'école, les mômes s'échangeront, les autocollants.
Ils arracheraient, c'est sûr.
Théo, je t'échange mon Nicolas Dupont-Aignan contre ton Glucksmann. Oh non, il est nul, ton Dupont-Aignan, j'en veux pas.
Et après, votre ado, Apolline, il va rentrer à la maison.
Maman, personne n'y veut de mon Dupont-Aignan. On peut le mettre sur le frigo?
Oh bah non, mon chéri, non. Déjà que je le prends pas pour le 8h30, c'est pas pour voir sa tronche toute la journée quand même. Faut pas exagérer. Allez, à demain.
Oh mon Dieu, merci beaucoup, Arnaud. Arnaud qu'on retrouve en podcast et en tournée partout en France, à Toulon, à Hyères, à Biarritz, à Bordeaux, à Frémin-Merlebach.
Oui, c'est de l'Alsace.
Non, c'est nouveau,
non,
ça.
Non, Lorraine.
C'est nouveau, ça.
Ils vont me taper. Oui, c'est nouveau.
C'est nouveau, celui-là. J'en ai plein qui arrive. Je n'avais pas eu jusqu'à présent. Donc, Frémin-Merlebach, Épinal, Gaillac. Ça, je savais, Gaillac.
Oui,
hein, Gaillac. Ça fait un bout de temps que j'en parle. Et puis, ce samedi, à Morières, les Avignons. C'est un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et on va aller dans le Pas-de-Calais retrouver Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, dans le Pas-de-Calais, vous avez chaud ou pas?
Ah oui, il fait chaud et la chaleur était lourde, pesante par rapport à quand on est sur la côte d'Opale ou comme j'ai déjà dit, mon épouse est en Corse,
okay.
On s'y déplace régulièrement, mais quand on est là-bas, il y a l'air marin, il y a l'air de moins montagne.
C'est-à-dire voilà. Qu'il fait chaud, mais au moins l'air circule. Là, vous êtes oui. Complètement sous cloche.
C'est ça, c'est tout à fait ça, oui.
Vous en êtes où? Vous en êtes où?
Bah écoutez, j'ai mis une climatisation chez moi, mais je dirais pas que c'est du confort, mais c'est plus un besoin médical parce que je suis albinos, hein, de naissance.
D'accord. Donc très sensible à la chaleur et au soleil, c'est terrible, oui.
Aucun pigment, aucune mélanine. C'est voilà, même bardé de crème ultra protectrice indice 50 pharmacie, ça passe à travers. J'ai eu les yeux brûlés là, vous voyez, alors que je mets des verres chromatiques, c'est tout un équipement.
Vous restez à la maison
bah, oui, le plus Patrick. Possible sauf tôt le matin.
Donc vous sortez vraiment à l'aube, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, je sors tôt le matin, j'essaie l'après-midi, je reste le plus possible à la maison. Et bien sûr, alors là, je peux remercier RMC, et alors, si j'espère ne pas tromper sur le prénom et le nom, Anthony Morel, je crois.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, qui a parlé il y a un an de ça, d'une clim corporelle. venu du Japon. Ouais. Et quand j'en ai entendu, je l'ai acheté à son arrivée en France en juin dernier. Et je peux vous dire que ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ça beaucoup. Vous aide beaucoup, donc on pourra lui dire, on va lui faire passer le message, c'est promis, Patrick. Merci à Anthony Morel, donc, effectivement, de vous faire découvrir toutes ces nouveautés et ces techniques pour tenter de lutter. Merci, Patrick, de nous avoir appelé au 3216 et bon courage pour votre journée. Prenez bien soin de vous. Il est 8h22. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Marine Tondelier, la patronne du parti Les Écologistes. Pendant longtemps, la clim avait pas forcément bonne presse, mais aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. Elle prône également un congé climatique, jusqu'à 5 jours de congés payés pour faire face aux catastrophes naturelles. Elle répond à mes questions dans un instant. Marine Tondelier sur RMC, BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC. Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
58 départements en alerte rouge canicule ce matin. 31 sont en alerte orange. Il fait déjà très chaud, les 30 degrés dépassés durant la nuit en Corse ou sur la côte atlantique à Biscarrosse. On a vécu hier la journée la plus chaude jamais mesurée dans le pays avec des pointes à 43, 44 degrés dans l'ouest et ce record sera à nouveau battu en principe aujourd'hui. À ça s'ajoutent les nombreux départs de feu. 35 départements au niveau élevé pour les risques d'incendie. 88 hectares de végétation sont partis en fumée là ces dernières heures dans le Lot et Garonne. La bonne nouvelle ce matin, c'est que ce feu-là du Lot-et-Garonne est maîtrisé. Le réseau électrique qui lâche dans le Finistère, grosse coupure d'électricité depuis hier, les 68 000 foyers sans courant, eh bien, le courant ne sera pas rétabli avant la fin de journée, prévient déjà la préfecture. C'est un transformateur qui a explosé près de Quimper. Vous n'êtes pas seul, ça c'est le message de Kylian Mbappé adressé à Didier Deschamps et sa famille. Le sélectionneur qui a eu la douleur de perdre sa mère, il est rentré en France pour assister aux obsèques et ne sera pas sur le banc des Bleus vendredi pour le troisième match de la Coupe du Monde contre la Norvège. Il y avait la fin de la deuxième journée de la phase de poule. C'était durant la nuit. Vous avez évidemment vécu ça sur RMC. La victoire de la Colombie 1-0, c'était contre la République démocratique du Congo.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est la patronne du parti Les Écologistes, Marine Tondelier. Extrême chaleur, bien sûr. Clim ou pas clim? Je lui pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Tondelier.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes et c'était hier la journée la plus chaude jamais mesurée en France. Épisode intense, précoce, durable, étendu. Et aujourd'hui, c'est encore 58 départements qui sont en vigilance rouge. On pourrait déjà battre les records que l'on a battus hier. La France souffre. Clim ou pas clim?
Peut-être commencer par apporter mon soutien aux Français qui souffrent. Moi, je fais partie des gens qui souffrent deux fois. Un, de la chaleur. Deux, en écoutant sur les plateaux télé certains raconter n'importe quoi. Et préciser que lundi, on a connu en France une température qui était supérieure à celle de 98,8% du globe. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1,2% des endroits du globe où c'est plus chaud lundi qu'en France, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, le Sahara. En gros, c'est pour vous montrer que la France n'échappera pas au phénomène climatique. Alors sur la clim, je le dis depuis un plateau climatisé.
Tout à fait.
Il fut un temps où on disait, en fait, on peut pas climatiser partout, tout le temps, et c'est pas ça l'urgence. L'urgence, dans les années 70, c'était de se battre pour qu'il n'y ait pas de changement climatique, ou le moins possible. Là où nous en sommes aujourd'hui, on est obligé de combiner deux choses, l'atténuation, donc continuer à se battre pour que ça n'empire pas, et l'adaptation, c'est-à-dire maintenant qu'il est présent, très fortement présent, comment on fait? Mais je dis bien à celles et ceux qui n'ont comme réponse que la clim, il y en a beaucoup, que si vous avez une fuite dans votre cave et que vous écopez sans jamais colmater la fuite, alors vous allez écoper longtemps.
Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
Exactement.
À la fois adaptation et en effet gérer l'urgence, c'est quand même pas ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, non, on n'a jamais été totalement contre. Regardez, il y a encore un an, le Conseil confédéral du parti a voté, c'était en juin dernier, contre la clim. La climatisation est, je cite, contre-productive, coûteuse, inégalitaire. C'est une maladaptation, elle aggrave la situation, la climatisation individuelle réchauffe ainsi les quartiers et pèse sur le réseau électrique. Est-ce que vous n'avez pas privé...
Attendez, c'est vrai.
Est-ce que vous n'avez pas privé une partie des Français, et notamment les plus modestes, l'idée de dire, écoutez, nous, on constate qu'il va y avoir un réchauffement climatique et donc, on va protéger les plus modestes.
Alors, c'est premièrement, ce que nous disons là est vrai. La clim fait partie des solutions. C'est, vous savez, le climat, c'est comme un effet boule de neige. C'est-à-dire que il y a cette boule de neige qui dévale la pente. Et en fait, ce que vous mettez en place aggrave le phénomène. La clim, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un logement parisien, vous avez la chance d'avoir la clim. la chaleur de votre logement est rejetée à l'extérieur, donc dans la rue et au bord des fenêtres de vos voisins qui peut-être n'ont pas cette chance. Donc on dit que c'est pas une solution miracle et que ça n'empêche pas de dire que dans les services
vous
publics,
pas juste que c'était pas une solution miracle,
c'est une maladaptation.
Vous disiez évidemment, c'est contre-productif, coûteux, inégalitaire.
Bah c'est vrai, c'est inégalitaire de se dire aujourd'hui, comme le fait le RN, la seule solution c'est la clim, parce que tout le monde ne l'aura pas et tout le monde ne l'a pas aujourd'hui. Donc si vous ne faites pas ce que font les mairies écologistes,
mais vous auriez pu aussi décider
exemple,
que c'était des investissements,
Madame Apolline de Malherbe,
fallait accompagner les Français.
Pas vous et pas à moi. Aujourd'hui, les villes écolo mettent en place des choses que les villes de droite ne mettent pas en place. La gratuité des piscines, la baignabilité d'espaces naturels, le fait d'avoir cette règle des 333, c'est-à-dire 300 à 300 mètres de chez vous un parc. De votre fenêtre, trois arbres, forcément, et 30% de couvert végétal l'été, n'importe où dans la ville. Les villes écolos font ouvrir les musées climatisés pour que tout le monde y ait accès.
Enfin, le Louvre va fermer plus tôt ce soir.
C'est pas une ville écologiste.
Non.
Regardez à Lyon. Je serai avec Grégory Doucet tout à l'heure.
Pardon,
c'est
mais les écologistes mais donc, gouvernent
Madame
à Paris
Apolline
avec
de Malherbe,
la majorité
socialiste. Est-ce que vous pouvez admettre que c'est toujours de la faute des écologistes dans ce pays? Moi, j'en ai ras-le-bol de ce niveau de débat public déplorable où on alerte pendant des décennies et on se moque de nous. Et quand le problème arrive, c'est encore de notre faute. Mais les autres, ils faisaient quoi? Ils ont fait quoi pour empêcher qu'on en arrive là? Ils sortent un plan clim, Madame Le Pen, qui sort son plan clim. Elle sort exactement
aujourd'hui,
la même proposition.
Aujourd'hui, tout le monde est pour la clim, sauf Jean-Luc Mélenchon.
Elle sort
Mélenchon.
Exactement la même proposition qu'il y a un an. Elle n'a pas travaillé entre-temps. Ce plan clim n'est pas chiffré, ne figure dans aucun de ses programmes et aucun de ses documents de campagne. Et moi, ce que je retiens du Rassemblement National, c'est que en 2023, elle disait « Oui, mais le GIEC, ils sont toujours alarmistes. Ils ont toujours été alarmistes. Ils travaillent tellement sur le sujet qu'ils sont très pessimistes. » Thomas Ménager, porte-parole du Rassemblement National. « On ne peut pas se baser sur les données du GIEC. Si on suit totalement les données du GIEC, on risque de contrevenir à la qualité de vie des Français. » Mais aujourd'hui, la qualité de vie des Français, elle souffre de leur inaction climatique et de tous les votes contre l'écologie qu'ils ont fait. Et donc moi, je viens être responsable une première fois, parce que quand on lance l'alarme, on nous dit qu'on est pénible. Mais si en plus, quand le risque sur lequel on alerte depuis des décennies, seul et sous les moqueries générales, se produit, c'est encore de notre faute, ça commence, convenez-en, à faire beaucoup.
Et tout le monde est d'accord sur le fait que les risques, vous faites partie des premiers à avoir alerté et avoir alerté inlassablement, mais il y a quand même une question. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, y compris des experts très écologistes, vous parliez du GIEC, on peut parler aussi de Jean-Marc Jancovici, des gens qui aujourd'hui disent pourquoi est-ce que la France peut se permettre la clim? Parce qu'en France, l'énergie est décarbonée. Et pourquoi elle est décarbonée?
Alors, je vois que vous allez l'emmener sur le nucléaire, mais je vous dis tout de suite que
pourquoi
en ce moment et quand il y a des clims, c'est le moment où l'énergie solaire marche à plein. On a atteint des records hier de production solaire
d'accord.
Et donc en pleine canicule.
Pourquoi est-ce que l'énergie est décarbonée en France?
Par principe.
Pourquoi est-ce que l'énergie
quand il y a une canicule, il y a beaucoup d'énergie solaire.
Au-delà d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'énergie est décarbonée en France?
Pour l'instant, c'est grâce au nucléaire, parce que la France est le bonnet d'âne européen sur les énergies renouvelables. Mais il n'empêche que le nucléaire est trop cher, et de plus en plus cher, et que les nouveaux EPR, personne ne sait les financer, même la Cour des comptes le dit. Il n'empêche que le nucléaire est trop lent pour atteindre la neutralité carbone à temps pour respecter les accords de Paris, parce que les nouveaux EPR ouvriront pas avant 2045, si tout va bien. Il se trouve que le nucléaire est très vulnérable
si
en période de canicule.
Des gaz à effet de serre beaucoup plus importants.
Madame de Malherbe, l'Allemagne sera à 80% de renouvelables en 2030.
Les Verts font leur...
On prend pas de
Les Verts allemands font aujourd'hui leur mea culpa, vous l'avez entendu.
Les Français ne font pas de leçon de morale sur le renouvelable. Les Français sont les bonnets d'âne de l'Europe. Quand ils ont dû fixer leur objectif pour l'énergie renouvelable, ils ont fixé l'objectif le plus faible d'Europe. Aujourd'hui, on est le bonnet d'âne, on est le seul pays qui n'a pas respecté ses accords.
Quand on regarde les chiffres...
Carbonation, c'est le carbone.
L'INSEE donne ce chiffre, 25% de moins d'émissions de gaz à effet de serre en France depuis 10 ans. Est-ce que vous reconnaissez ce chiffre?
Alors, il y a eu des années où ce chiffre s'est produit parce que on avait une désindustrialisation, qu'on a eu des hivers beaucoup plus chauds, moins rigoureux, donc moins de chauffage, et qu'on a eu une crise de Covid qui fait que dans certains secteurs très émetteurs, notamment l'aviation, ça s'est arrêté un temps. Il y a aussi des secteurs qui s'améliorent, l'industrie notamment, mais je vous l'ai dit, pas que pour des raisons.
Ma question était, est-ce
positive.
Que vous vous félicitez de ce chiffre? 25% de moins d'émissions de gaz à effet de serre en France.
Ce que je vous dis, Madame de Malherbe, et vous verrez que les nouveaux scénarios de RTE sortiront en octobre et montreront que le 100% renouvelable est possible et que là, il rend la France d'ailleurs vraiment indépendante de l'uranium russe que l'on continue à importer malgré les sanctions économiques qu'on est censé respecter. Et donc, le 100% renouvelable, c'est possible, beaucoup plus fiable que le nucléaire, beaucoup moins cher et beaucoup plus résistant parce
que... Vous prenez donc toujours la sortie du nucléaire.
Évidemment, mais pas demain, pas en trois semaines, pas sans prolonger les centrales actuelles. On n'a pas le choix, sinon il y aura un effet falaise. Mais vous verrez que la centrale de Golfech, depuis deux jours, est à l'arrêt parce que la Garonne est à 38 degrés, qu'elle ne fonctionne plus, que dans l'Ain, au Bugey, on a dû ralentir aussi
parce
la production.
Parce que le risque de refroidissement, effectivement,
alors,
de la centrale...
Soit on est au bord d'un fleuve et qu'on n'arrive pas à la refroidir, soit on est au bord de la mer et bientôt il y aura la submersion marine. Donc, problème. Problème. Pas résilient.
Marine Tondelier, je vous repose la question. Est-ce que vous vous félicitez malgré tout que la France ait réussi à baisser de 25% ses émissions de gaz?
Ça, c'est toujours une bonne nouvelle, mais elle aurait pu le faire par du renouvelable, comme le font d'autres pays, qui sont aujourd'hui à 80% de renouvelables dans leur production électrique, comme l'Allemagne, et quand nous, on galère. Voilà.
L'Allemagne qui a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que nous.
À cause du gaz.
Et à cause des centrales à charbon.
Mais on a du gaz aussi en France.
Et les centrales à charbon, parce qu'ils ont fermé les centrales nucléaires.
Non, madame de la mère, il y avait du charbon avant, et il y en a pendant, et la part de charbon baisse.
Ma question, c'est est-ce que malgré tout, c'est-à-dire que quand je vous écoute, il y a zéro.
Mais alors, je veux bien qu'on fasse toutes les missions sur nucléaire, je pense pas que dans la torpeur de cet été, c'est soi qui a été foncé. Mais non, parce que si on était en 100% renouvelable, on n'en serait pas là. Voilà. Non plus. Yes. Et on n'aurait pas des centrales qui galèrent à fonctionner l'été et dont on ne sait pas comment elles fonctionneront.
Il y en a deux.
Il y en a deux aujourd'hui, mais à l'été 2023, c'était le même topo. Et monsieur Macron qui dit qui aurait pu prédire l'été 2023, je savais pas. J'aimerais bien qu'il nous dise comment à l'été 2100, ces centrales nucléaires fonctionneront.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que parmi le plan, je crois que vous avez un grand plan que vous allez d'ailleurs présenter cet après-midi pour s'adapter effectivement à ce réchauffement climatique. Je vous repose quand même la question de la clim parce que vous m'avez dit, je suis pas contre, mais est-ce que vous êtes favorable à aider les particuliers, par exemple, comme on les a aidés à un moment, à mettre le chauffage, comme on les a aidés à adapter leurs habitations, à pouvoir se procurer la clim.
Bien sûr, mais en fait, il faut regarder ça plus globalement. Aujourd'hui, 66% des Français vivent mal l'été dans leur logement. C'est la moitié, le gouvernement dit un tiers, mais en fait, le vrai chiffre, c'est la moitié des Français qui vivent dans une bouilloire thermique et 9 Français sur 10 qui vivent dans un logement qui, en fait, est vulnérable à la chaleur l'été. Quand vous faites une rénovation thermique de votre logement, il y a plein de choses. Le diagnostic thermique, en fait, c'est beaucoup basé sur l'hiver, très peu sur l'été. Et donc, les méthodes pour se protéger l'été, qui peuvent être la clim dans des régions ou dans des cas où on ne peut pas s'en passer, mais qui peuvent être aussi des clims non électriques, des clims, vous savez, au plafond, ça peut être des volets. Il y a plein de logements aujourd'hui en France qui n'ont pas de volet, eh bien, équiper son logement de volet, ce n'est pas pris en charge comme une mesure d'isolation. Et si vous êtes locataire et que vous n'avez pas de volet, vous n'avez pas de droit opposable à dire à votre propriétaire, ce serait quand même bien d'en mettre. Nous voulons changer tout ça. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que l'État respecte ses promesses. Quand ils disent qu'ils vont isoler 40 000 écoles d'ici 10 ans, au rythme où ils vont actuellement, ça prendra 3 siècles. 3 siècles parce que le fonds vert qui était créé pour aider l'adaptation au changement climatique a été, tenez-vous bien, divisé par 4 en 2 ans. Et que entre la vague de chaleur de mai et la vague de chaleur de juin, il n'y a quand même eu que 3 semaines, eh bien ils ont trouvé le moyen en 3 semaines de réannoncer un gel de 20% de ce fonds vert. Et donc on n'arrive pas à avancer. Donc nous, ce fonds vert,
mais
nous remettons.
Mais vous, vos mesures d'urgence, c'est quoi?
En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on peut pas dire, on fait rien sur le climat pendant des décennies, et tout d'un coup, là, c'est urgent, en 3 jours, on a les solutions. Ça marche pas. On fait tout ce qu'on peut dans les villes écolos. Je vous ai dit, on ouvre les musées, on ouvre les espaces verts. À Lyon, les parcs restent ouverts la nuit pour que les gens puissent y dormir si le logement est pas adapté. Et dans les mesures d'adaptation qui prennent un peu plus de temps, il y a cette végétalisation dont je vous ai parlé. Dans les villes écolos, on débitume les cours d'école. Les gamins, quand ils ont une cour d'école végétalisée plutôt que bitumée, ils voient bien la différence en ce moment. On veut aussi mettre en place le congé climatique. Ça, c'est une mesure qu'on pourrait mettre en place très rapidement. J'ai entendu beaucoup d'âneries sur le congé climatique. Peut-être que je rappelle ce que c'est.
Alors, dites-nous, parce que le congé climatique, c'est 5 jours par an pour les salariés exposés. Ou 4 ou 6.
Mais c'est tout ça, il t'a discuté. Moi, je mets une idée sur la table, comme je l'ai conçue. Après, le débat suit son cours et on fera au mieux, selon ce que les gens sont prêts à faire.
Décider par qui, comment, financer par quoi?
Alors, le principe aujourd'hui, c'est qu'il y a des employeurs qui, des fois, disent à leurs salariés, venez pas travailler aujourd'hui. Ils prennent sur eux. Il y a des salariés qui peuvent faire valoir ce qu'on appelle aujourd'hui le cas de force majeure, en disant, moi, aujourd'hui, je peux pas venir travailler. Dans ces cas-là, ils ont le droit de pas venir, mais ils sont pas payés. Donc, en fait, il y a déjà des gens qui payent, les employeurs ou les salariés concernés, mais c'est pas un risque qui est mutualisé. Donc, moi, je veux que, comme l'assurance maladie, ce risque, qui est un nouveau risque du 21e siècle, soit assuré collectivement. Donc, il coûtera le même prix, sauf que ce sera assuré collectivement. Ça ne concerne pas tous les Français. Il y a des gens qui peuvent télétravailler dans leur logement climatisé s'ils ont de la chance. Il y a des gens qui sont pas concernés. Mais il y a aussi des personnes dont
comment
le poste
on va
de travail
distinguer ceux qui sont concernés ou ceux qui ne le sont pas.
On fait appel au bon sens et on écrira les cas. Par exemple, je pense que dans le BTP, il paraît assez évident à tout le monde. Moi, je reçois des salariés du BTP qui m'envoient des photos. Ils sont avec les parasols et tout sur les toits. C'est ingérable. Dans certaines exploitations agricoles, des gens qui ont des bureaux. J'étais au Muséum d'Histoire Naturelle la semaine dernière. Dans un bureau, il fait 48 degrés. Comment voulez-vous qu'on travaille là? C'est pas possible. Et il y a des postes qui sont télétravaillables, d'autres non.
Mais aujourd'hui, on adapte les horaires. Par exemple, vous parlez de ces bureaux au Muséum d'Histoire Naturelle. J'imagine qu'ils peuvent venir plus tôt, partir plus tard.
Oui, mais dans le BTP, si vous dites vous arrêtez à 14h au lieu de 16h, ce qui est le cas dans certaines boîtes, vous êtes exposé.
Oui, mais si vous dites que c'est pour y compris, par exemple,
dans
les gens
bureaux,
qui travaillent dans un bureau
autre
où il fait 48.
Dans les bureaux, en fait, comme on n'a pas le droit avec les assurances d'ouvrir les fenêtres la nuit, c'est pas vrai que les températures baissent la nuit.
Plutôt qu'un congé climatique, il faudrait pas obliger à ouvrir la nuit.
Ah bah oui, bien sûr, les gens la nuit qui n'auront pas de métro pour aller travailler.
À ouvrir, parce que vous dites.
Ça fait partie de notre plan d'adaptation de demander aux assureurs pendant même dans les crèches, dans les écoles, c'est interdit d'ouvrir les fenêtres la nuit. Donc on devrait pouvoir avoir des gardiens de nuit et ouvrir les fenêtres la nuit dans les périodes de canicule. Mais sur le congé climatique, moi je vous dis une chose, les vérités, ça subit toujours trois phases. La première phase, ce sont les moqueries. Et moi j'avais entendu Louis Sarkozy dans le studio d'à côté,
chroniqueur de droite,
expliquer que c'était un astro qui allait donner des arrêts de travail. Enfin, franchement, c'était n'importe quoi. Je lui donnais la réplique, même vous étiez consterné. J'ai entendu ensuite la deuxième phase, c'est-à-dire la phase
vous dites
où c'était
dit. Ce sera décidé par qui?
Parce qu'il y a l'idée où c'est moqué et il y a le moment.
Non, mais
deuxième
moi, je veux
phase
que vous m'expliquez comment ça
attendez,
marche.
Il y a la deuxième
qui
phase.
Qui décide aujourd'hui?
Il y a la phase
congé.
Où c'est moqué et il y a la phase où on commence à argumenter. Et moi, j'ai entendu Monsieur Martin du MEDEF à votre antenne hier qui disait ah ben on peut
il
pas
dit,
parce
je n'en
que...
pense pas de bien. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. On va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de règlement climatique. Le problème de fond, c'est qu'on ne produit pas assez. Je suis totalement contre par philosophie. La décroissance n'est pas la solution. C'est chronique. Il faudrait toujours moins travailler si on les écoute. Les écoute, c'est vous.
Oui,
comment on peut gagner plus en travaillant moins? Voilà la question
Monsieur
vous pose.
Martin a dû lire les mêmes chiffres que moi, fait par l'assureur Allianz, qui est un spécialiste de l'évaluation, qui dit une journée de canicule, c'est l'équivalent d'une demi-journée de grève. Parce que c'est comme ça, les gens sont déjà moins productifs quand il fait très chaud qu'ils se figurent.
Donc vous dites qu'il a bossé
attendez,
déjà une demi-journée de moins autant...
à votre antenne. Que si on travaille pas les jours de canicule, on pourra pas financer la transition énergétique. C'est-à-dire quoi? Il faut que les gens meurent sur les toits dans le BTP pour qu'on puisse isoler nos écoles. Ça n'a aucun sens.
Il dit pas que les gens doivent mourir sur les toits, puisqu'il dit par ailleurs que les patrons sont responsables de la sécurité de leurs
ouvriers. Mais j'avais entendu, figurez-vous, les ministres du travail dire la même chose à la vague de canicule de mai en disant Marine Tondelier, elle est bien gentille, mais les employeurs, c'est ce qu'ils ont à faire.
Gabriel
le soir.
Attal lui dit
attendez,
c'est une très mauvaise solution à un vrai problème.
Madame, vous me coupez dans chacune de mes réponses. Monsieur le ministre du Travail dit le matin, Marine Tondelier, elle est bien gentille, les employeurs savent ce qu'ils ont à faire. Le soir même, un jeune de 19 ans meurt à l'hôpital après avoir fait un malaise sur un toit. Donc oui, il y a des employeurs qui sont très responsables, qui prennent les bonnes décisions, mais il y a aussi les autres. Et la loi est là justement pour protéger tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Moi, je ne suis pas là pour dire, Madame de Malherbe a un droit à un congé climatique. Vous savez bien que vous, votre boulot, il est supportable par canicule plus que d'autres. Et quand on travaille dans une cuisine par 50 degrés, ça n'est pas possible. Et quand les écoles ferment, ce qui est le cas de beaucoup d'écoles en France aujourd'hui, eh ben, quand on n'a pas les moyens de télétravailler, parce que le congé climatique s'applique pas quand on a du télétravail. Quand on n'a pas le moyen de télétravailler, que ses enfants sont pas en âge de garder tout seul, on fait comment? Donc évidemment qu'il faut fournir ces droits-là, sinon on a juste les gens en difficulté.
Gabriel Attal dit que c'est une très mauvaise solution à un vrai problème.
Ça me confirme que ça doit être une bonne solution.
Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, vient de dire que cet épisode pourrait durer jusqu'à 3 semaines, peut-être même jusqu'à la mi-juillet. Est-ce que 5 jours, si on va dans votre logique, est-ce que 5 jours, ce sera suffisant? C'est-à-dire que quitte à faire un congé écologique, vous allez finalement ouvrir une boîte de Pandore et on va se retrouver avec 3 semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois sans pouvoir travailler.
Je vous redis, Madame de Malherbe, que dans les moments comme ça de l'histoire, les bonnes idées sont d'abord moquées, puis critiquer sur le fond, comme c'est le cas actuellement. On est dans la phase 2, parce qu'elle pro lui est restée à la phase 1 pour toute sa vie. Et la phase 3, c'est que
Monique
ça paraît
Barbu,
évident
elle est
et qu'on fait.
Elle est ministre de la Transition
pour écologique. Pour les congés payés en 1936, on a eu les mêmes phases. Aujourd'hui, personne ne dit que les congés payés, ça crée la misère dans le monde. Et ben là, ce sera pareil, ça paraît très évident. Moi, je suis allée en Espagne, où Yolanda Diaz, prosége écologiste, a mis en place cette mesure suite à des morts dans des exploitations agricoles, dans le BTP et dans le gros épisode d'inondations à Valence.
Ça partait des inondations à Valence.
Mais pas que.
C'est après les inondations à Valence,
oui,
on est
mais
bien d'accord.
Mais ça venait de loin et le portait depuis longtemps. Les inondations font que dans l'opinion publique et dans le patronat, par exemple, on arrête de dire non. Ça dure 4 jours. Et après, on bascule dans le régime du chômage partiel.
On passe au bout de 4 jours en Espagne au chômage.
Dans le régime du chômage partiel, mais qui est moins indemnisé. Donc,
qui va porter cette mesure aujourd'hui? Effectivement, quand on entend Gabriel Attal, quand on entend le patronat, est-ce que vous avez suffisamment autour de vous, est-ce que vous avez pu convaincre, je sais pas, les socialistes, les communistes, LFI, qui va porter cette mesure avec vous?
Écoutez, cette mesure sera déposée sous forme de proposition de loi par Damien Girard. On a une conférence de presse cet après-midi pour l'annoncer. Il est député écologiste de l'Orient, et j'entends à gauche pour l'instant soit du soutien très très franc, soit pas d'opposition. Donc on a déjà convaincu notre famille politique qui n'est pas solidaire surtout tout le temps, donc je le note, et les autres on ira les chercher un par un avec le soutien des Français. On a lancé une pétition sur lesécologistes.fr.
Vous avez parlé
qu'on a besoin de faire monter pour soutenir
ce soutien.
Vous avez
parlé de privilèges climatique.
Oui, bien sûr.
C'est quoi les privilèges climatiques? Qui sont les privilégiés du climat?
Les privilèges climatiques, c'est le fait déjà que les milliardaires émettent en 90 minutes plus de CO2 qu'un habitant mondial moyen dans toute sa vie, en 90 minutes, et que les mêmes qui contribuent et qui accélèrent ce changement climatique sont ceux qui en sont préservés parce qu'ils ont la clim, parce qu'ils n'ont pas les boulots qui sont exposés et qu'ils auront toujours les moyens de se sauver, y compris comme Elon Musk en disant « moi je vais aller sur Mars ». Donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que regardez les statistiques, dans les 10 départements les plus pauvres, il y a 31% de surmortalité en cas de chaleur que dans les 10 départements français les plus riches. Donc les plus vulnérables sont plus exposés à la chaleur. Ils ont les boulets les plus durs, ils habitent dans les quartiers les plus bétonnés, ils ont les logements les moins bien isolés. Et donc moi je le dis, les privilèges climatiques, ça suffit. Et comme il y a eu la nuit du 4 août 1989 d'abolition des privilèges, et ben moi je suis pour une nuit du 4 août 2027 quand nous aurons gagné pour abolir les privilèges climatiques.
Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, 8h47 dans quelques toutes petites secondes, les routes qui fondent avec la canicule et les dernières nouvelles des Bleus aux États-Unis. C'est le Mondial de Virginie, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
8h51 sur RMC, le Mondial de Virginie, c'est avec vous Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et c'est dans un instant avec les toutes dernières infos du Mondial. Mais avant cela, le choix de la rédaction, bonjour Martin Lange.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alerte sur nos routes ce matin face à cette canicule qui se prolonge, 58 départements en vigilance rouge, des températures qui vont encore dépasser les 40 degrés, c'est tout le réseau qui est sous tension. Dans le département de Meurthe-et-Moselle, une route départementale a été fermée parce qu'elle était en train de fondre. Fondre, oui. Un phénomène connu et surveillé de très près par toutes les collectivités, Martin.
Oui, Mathieu, ça s'appelle le ressuage. Avec les très fortes chaleurs, le bitume ramollit et remonte à la surface. J'ai suivi Christophe Devoile, il est directeur adjoint des routes départementales dans le Maine-et-Loire. Et depuis le début de la canicule, il est confronté à ce phénomène, une sorte d'effet chewing-gum, écoutez.
Le bitume va se coller aux pneus et donc va partir de la route et créer des dégradations. C'est comme un nid de poule qui s'étale, c'est-à-dire que les pneus ont embarqué le bitume et le gravillon de la route et ça crée des trous, alors pas très profonds, mais qui sont inconfortables pour les usagers, qui posent des questions de sécurité.
Là, avec la vague de chaleur qu'on connaît, des zones comme ça, avec des dégâts comme ça, vous en avez beaucoup?
Effectivement, là, on est dans une vague exceptionnelle et qui dure, c'est surtout ça. Donc les chaussées ne refroidissent plus la nuit et donc on a plusieurs dizaines de kilomètres qui sont concernés par ces ressuages.
240 km exactement, rien que dans le Maine-et-Loire. Et comme en Meurthe-et-Moselle, face à cette canicule exceptionnelle, le département ne s'interdit pas de fermer un ou plusieurs axes.
Mais est-ce qu'il y a des solutions pour prévenir ces dégradations, Martin ?
Eh bien oui Mathieu, il y en a une, le lait de chaux. D'ailleurs le camion qui l'applique dans le Maine-et-Loire tourne à plein régime, exemple à la Daguenière sur les bords de Loire.
Là, en anticipation, on applique ce qu'on appelle du lait de chaux. Donc, c'est un mélange de chaux avec de l'eau. Comme si on avait fait couler du lait sur la route. Il donne une couleur blanche à la route. Donc, le blanc va permettre de réfléchir les rayons du soleil pour que la route monte moins vite en température. Et la chaux va permettre de redonner de l'adhérence au bitume pour garantir la sécurité des usagers.
Ça a un coût, ça, pour la collectivité, ce lait de chaux?
C'est des matériaux qui sont peu chers. On parle de quelques milliers d'euros, là où refaire une chaussée coûte plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et de nombreuses collectivités ont adopté ce dispositif. L'Ille-et-Vilaine, le Rhône, les Vosges, le Doubs ou encore le Puy-de-Dôme. Dans le Maine-et-Loire, le département a même aménagé son propre camion pour pouvoir faire face à ces épisodes qui se multiplient.
Alors justement Martin, puisque ces épisodes caniculaires se multiplient, est-ce que c'est la bonne solution ?
Bien, vous l'avez entendu, Mathieu, hein, c'est surtout la solution la moins coûteuse. L'idéal serait de refaire toutes les routes, non pas avec de l'enduit, hein, ce mélange de bitume et de gravier, mais avec de l'enrobé. Le problème, c'est qu'un kilomètre d'enrobé coûte 5 fois plus cher que l'enduit. Par ailleurs, aujourd'hui, le revêtement miracle n'a pas encore été découvert. David Zambon est directeur général adjoint du CEREMA. Il accompagne les collectivités face au changement climatique.
Des routes dans des pays où il y a des fortes chaleurs, il en existe. Et des routes qui tiennent. Le problème ou la difficulté dans un pays comme la France, qui est un pays tempéré, ça veut dire qu'on a des forte chaleur, mais on peut avoir aussi des températures très basses. C'est que les bitumes, quand ils sont trop durs, l'hiver, si ça gèle, bah, ils vont se fissurer, ils vont se casser, un peu comme du verre. Et donc, c'est tout un compromis. On va probablement, dans les années futures, prendre comme température de référence des températures plus élevées que celles qu'on a prises par le passé.
Selon ce spécialiste, hein, refaire le million de kilomètres de routes françaises est de toute façon inenvisageable. Il faudra apprendre l'été à vivre comme l'hiver, avec des routes parfois fermées et à la place des saleuses, des camions qui épandent du lait de chaud.
Merci beaucoup Martin Lange, correspondant d'RMC dans l'Ouest. Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Avec vous, les dernières infos de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Didier Deschamps a quitté les États-Unis hier. Le sélectionneur a perdu sa mère et il ne sera pas là pour le prochain match des Bleus vendredi contre la Norvège.
Tous unis derrière Didier Deschamps, les joueurs ont respecté une minute de silence tous en cercle hier avant l'entraînement. Un groupe soudé autour de son entraîneur. Alors vendredi, pour le dernier match de poule contre la Norvège, c'est Guy Stéphan, l'adjoint toujours de Didier Deschamps, qui sera sur le banc. Les joueurs, eux, n'ont qu'une idée en tête, gagner pour leur sélectionneur. Vous n'êtes pas seul, c'est le message du capitaine Kylian Mbappé sur les réseaux pour la famille de Didier Deschamps.
Alors l'équipe de France est déjà qualifiée pour les 16e de finale, mais on commence à faire des petits calculs pour la suite.
Oui, des calculs pour se faire peur. Et si c'était mieux de finir deuxième du groupe plutôt que premier? Non, parce que si les Bleus battent la Norvège vendredi et finissent premier, ils vont affronter le troisième du groupe C, D, F, G ou H. Si l'Espagne perd contre l'Uruguay avec le Cap-Vert bat l'Arabie Saoudite et que le super calcul... Bon, je m'arrête là. En gros, on comprend rien, à part qu'il y aurait peut-être moins d'1% de chance de risque plutôt d'affronter l'Espagne. Donc, en gros, on évite de trembler pour rien.
Alors, on se fait aussi un peu peur avec la météo maintenant.
Allez, si on se refaisait une petite mi-temps de 2 heures, c'est possible. Le National Weather Service de Boston prévoit des averses et de possibles orages vendredi, le jour de France-Norvège. Maintenant, on le sait, s'il y a le moindre éclair à moins de 13 km à la ronde, on arrête tout. Et on va encore voir Kylian Mbappé aller expliquer aux balayeurs sur la pousse comment enlever l'eau. Donc, comme ce qu'il a fait contre l'Irak, ce qui était assez drôle, mais ça suffit une fois.
Une fois, c'est bien. On peut parler un peu de mode?
Oui, on va se concentrer sur les chaussures et les chaussettes.
Allons-y.
Rouge et jaune à
petits points. Ah oui, Club Dorothée pour toujours.
Dorothée, évidemment, pour toujours, mais pas celle-là. Des chaussettes trouées au mollet de plusieurs footballeurs pendant cette Coupe du Monde. Je pense à l'anglais Jude Bellingham, hier soir, par exemple, mais il n'est pas le seul. C'est pas parce qu'il a pu en acheter des neuves, c'est pour éviter les blessures. Parce que neuves, les chaussettes des équipementiers compriment le mollet. Et les joueurs fragiles à ce niveau préfèrent les trouer, même si c'est interdit par la FIFA.
Ah bon?
Attention, oui, c'est interdit. Il faut que tout soit impeccable. Pour les chaussures, on va parler de celles de Kylian Mbappé. Vous avez vu le sigle K-E-W-J-F dessus? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, on va résoudre un petit mystère. K, Kylian, E comme son frère Ethan, W son père Wilfried, J son autre frère Jires et F comme sa mère Faïza. Voilà, c'est la famille. On va pas polémiquer pour une fois.
Voilà, on ne polémiquera pas. Merci beaucoup Virginie Fulpin. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde, faut-il le rappeler, 100% de tous les matchs, 5 des 104 matchs commentés en direct avec nous. Dans un instant, place aux grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal? Bonjour Alain.
Bonjour à tous. Les grandes gueules vous donnent la parole là dans un instant, bien sûr, au 32-16. Nous serons avec la prof de français Fatima Hidbounois, avec Zora Vitan, retraité de la fonction publique, et Didier Giraud, l'agriculteur. Didier nous parlera des difficultés là, avec la canicule pour les moissons. Puis on regardera toujours ce qui se passe dans les écoles. On est à 1800 écoles aujourd'hui qui sont fermées. Toujours le débat sur la canicule et la climatisation. Alors, est-ce qu'il faut climatiser toutes les écoles? Au moins, les installations seront là. Après, on voit si on les utilise ou pas. Mais est-ce qu'il faut lancer ce grand plan climatisation, tout comme lancer un grand plan natation pour l'école? 40 noyades, on a quasiment 20% des jeunes qui ne savent pas nager, des adolescents. Voilà, vous venez en discuter avec nous au 32-16.